nous avons eu la chance de rencontrer Rémi Kenzo, un journaliste de 37 ans. Attention, son prénom c'est pas Rémi, c'est pas Kenzo, c'est Rémi Kenzo.
Il fait partie d'un collectif qui s'appelle Enquêto, parce que travailler en groupe, c'est plus pratique pour rassembler plein d'idées et plus de preuves.
C'est un homme calme, mais passionné, qui s'est spécialisé dans le racisme environnemental et les pollutions industrielles. Il nous a expliqué la façon dont il travaille.
Au départ, Rémi Kenzo a fait des études d'archéologie, et puis il est devenu journaliste. Il est journaliste pigiste, ça veut dire qu'il est payé à la commande. Il ne travaille pas pour, mais à l'Académie du Climat, où il partage un bureau.
Vous écoutez un podcast Transsonore. Transsonore, la transition et l'insertion par le son.
Bonjour, nous on est des élèves du collège Jacques Prévert à Nozilsec. Et on aimerait bien vous poser quelques questions s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut ?
Oui, bien sûr. Bonjour.
Pourquoi votre bureau est-il à l'Académie du Climat ?
Alors, on est à l'Académie du Climat parce que... Parce que nous, on est un collectif qui s'est spécialisé sur les pollutions industrielles. Mais il y a un lien assez évident avec la question du climat, de façon générale aussi, de toutes les problématiques en lien avec le climat et l'écologie. Donc ça fit bien. C'est des questions qu'il ne faut pas tant séparer l'une de l'autre. Et nous, quand on investigue sur la question des pollutions industrielles, en fait, concrètement, on investigue sur des saccages écologiques. Donc le lien, il est quand même très évident aussi.
Sur quel sujet travaillez-vous en ce moment ?
Alors là, juste avant vous, j'envoyais la correction d'un article sur le chlordécone, qui est un produit, un pesticide, un insecticide plus précisément, qui a été employé particulièrement dans les Antilles françaises. Et c'est un des sujets sur lequel je travaille beaucoup. On a fait un dossier avec une autre collègue du collectif Enquêto sur les lobbies de la banane. Et donc, qui sont responsables en partie de l'empoisonnement des Antilles au chlordécone.
C'est quoi le chlordécone ?
Alors, le chlordécone, c'est un produit cancérigène. C'est un insecticide, en fait, qui a été employé légalement jusqu'en 1993. Et puis, on suspecte qu'il y a eu des utilisations pour écouler les stocks après 1993. Mais en tout cas, l'usage massif de ces épandages, il a été fait jusqu'en 1993 dans les Antilles françaises, donc Guadeloupe et Martinique, dans les bananeraies pour combattre un coléoptère qui avait un impact sur les productions de bananes. Sauf qu'en fait, ce produit, il avait un impact énorme sur la santé des habitants déjà, mais aussi sur l'écologie de ces îles et aussi de l'océan, puisque aujourd'hui on retrouve du chlordécone dans l'océan. On a même retrouvé jusqu'en Polynésie française, parce que avec les courants marins, ça circule. Et il y en a notamment dans les algues sargasses, ces algues qui proviennent des Caraïbes et qui commencent à s'échouer sur les côtes européennes aussi au niveau de l'Atlantique. Donc c'est vraiment un empoisonnement massif. Et donc ce produit, en fait, il continue à empoisonner les habitants de Guadeloupe et de Martinique aujourd'hui, parce que en fait, c'est un produit très persistant dans l'environnement, et donc l'eau que boivent les personnes qui vivent là-bas, en fait, est polluée encore aujourd'hui au chlordécone, même si la pollution s'est officiellement arrêtée en 1993, elle n'est pas terminée dans les faits, et selon une étude du CIRAD, c'est une pollution qui pourrait persister pendant minimum 700 ans, donc la fourchette basse c'est 700 ans, et la fourchette haute c'est plusieurs milliers d'années.
C'est laquelle la fake news que vous avez dû enquêter dessus ?
En fait, quand on enquête sur les industriels, on est quand même amené à beaucoup discuter avec ces industriels-là. Et parfois, ils nous baladent. Concrètement, ils nous vendent souvent des produits ou un monde très bien emballé, très beau, auquel on a envie de croire. Et nous, notre métier de journaliste, c'est d'aller fouiller derrière, de décortiquer un petit peu tout ça et de voir derrière l'emballage, en fait, ce qu'il y a réellement en dessous et ce qui est moins joli. Et donc, par exemple, là, en ce moment, j'enquête sur les industriels de la banane aux Antilles. Et quand on arrive à accéder à eux, parce que ce n'est pas toujours le cas, hein, parfois, ils refusent de parler, mais quand on arrive à leur parler, ils nous vendent quand même une banane extrêmement vertueuse, hyper bonne pour la santé, qui serait très écologique et qui, en plus de ça, serait source de performance sportive, physique, etc. Sauf qu'en fait, nous, en tant que journalistes, on va fouiller un peu, on va voir ce qu'il en est réellement derrière ces propos. C'est un produit qu'on va faire venir d'Afrique ou des Antilles, etc. Donc il y a un coût écologique déjà à le faire venir là, parce qu'en fait, ce n'est pas un produit local. Ensuite, c'est un produit qui est cultivé en monoculture. La monoculture, donc, c'est un système de production agricole où en fait, il n'y a qu'un seul type de culture qui domine, mais qui a des conséquences très importantes sur les écosystèmes, sur les sols, sur la biodiversité. Ça appauvrit les sols, ça dégage aussi des pollutions. Et puis, ça peut être responsable de catastrophes, comme par exemple des inondations, ce genre de choses. Ensuite, c'est une culture, en ce qui concerne les Antilles, qui est la cause en fait d'un empoisonnement, puisqu'on parle du chlordécone. En fait, c'est parce que il y a des bananes qu'on a empoisonné un territoire entier pour des centaines, voire des milliers d'années. Enfin voilà, tu vois, des arguments comme ça, il y en a plein. Voilà, il y a des cancers. C'est le deuxième taux le plus élevé de cancer de la prostate au monde, derrière les États-Unis, les Antilles françaises.
Sur quel sujet avez-vous enquêté tout au long de votre carrière ?
Alors, moi, ma vraie spécialité, c'est le racisme environnemental, en fait. C'est un peu une niche dans la niche. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'enquête sur des pollutions à laquelle certaines populations sont plus exposées que d'autres, ou alors quand elles sont exposées à ces pollutions-là, les prises en charge sont différenciées, parce que ce sont des populations minorisées, minoritaires. Voilà. Par exemple, moi, ça fait 10 ans que je travaille sur l'agent orange. Je travaille beaucoup sur l'agent orange, qui est un produit qui a été développé par les firmes agrochimiques comme Monsanto, Docomicol, Hercule, enfin, les grands producteurs de pesticides américains. Dans le cadre de la guerre du Vietnam. Et aujourd'hui, on est à la 4e génération de personnes descendantes vietnamiennes, donc y compris ici à Paris, etc., qui naissent avec des malformations, avec des maladies, du fait de leur exposition ou de l'exposition de leurs ancêtres pendant la guerre à l'agent orange. Donc en fait, l'agent orange, c'est quelque chose, on peut se dire que c'est pas d'actualité, mais en fait, c'est encore quelque chose d'actualité, puisqu'on a encore des personnes aujourd'hui qui naissent avec des problèmes. Il y a une prise en charge et une reconnaissance qui n'est pas encore réelle aujourd'hui en France. Et donc, voilà, c'est un sujet journalistique, moi, par exemple, sur lequel je travaille beaucoup.
C'est quoi l'agent orange ? J'ai pas compris.
L'agent orange, en fait, c'est un produit qui a été utilisé pendant la guerre du Vietnam. C'est un défoliant. Donc un défoliant, c'est un super pesticide, en gros, qui a été utilisé pour raser les forêts du Vietnam, parce que les combattants vietnamiens qui étaient en guerre donc, contre les États-Unis d'Amérique se cachaient dans les forêts. Donc pour les empêcher de se cacher dans les forêts, l'armée américaine a utilisé un défoliant pour détruire les forêts. Et cette histoire, d'ailleurs, c'est ce qu'on appelle le premier écocide de l'histoire. Donc l'écocide, en fait, c'est une destruction systémique et systématique en fait, de l'environnement total. Et donc là, on a eu le premier écocide reconnu de l'histoire, où on a en fait détruit totalement les forêts vietnamiennes pour empêcher les Vietnamiens de se cacher dans ces forêts.
Qu'est-ce qu'il y a comme cas dans le racisme environnemental ?
Par exemple, le cas du chlordécone, il est considéré comme un cas de racisme environnemental assez important, puisque en l'occurrence, c'est donc les populations antillaises qui ont été exposées à un produit et... A priori, il y a un certain nombre de recherches qui montrent que, parce que l'État français, et avant l'État français, l'État américain savait que ce produit allait causer ce qu'il a causé, ils ont quand même délibérément fait le choix de continuer à l'utiliser sur des populations qui étaient un peu considérées comme étant, dans la vie, valaient moins, d'une certaine manière, du point de vue de certains politiques. Donc là, on parle de racisme environnemental. Pour le cas du Vietnam, on parle de racisme environnemental aussi parce que justement, des populations colonisées, on peut se permettre plus de choses vis-à-vis d'elles et donc utiliser des produits qu'on ne se permettrait pas d'utiliser dans nos métropoles, par exemple. Les Américains n'auraient pas utilisé ce produit sur la population américaine. Et on parle aussi de racisme environnemental parce que justement, les vétérans, donc les soldats américains qui épandaient ce produit, ont aussi été exposés quand même à ce produit, mais eux ont été indemnisés par l'armée américaine. ils ont reçu des compensations. Ce qui n'est pas le cas des Vietnamiens, malgré les procès qu'il y a eu, ils ont perdu les procès parce qu'on n'a pas reconnu, on les a pas reconnus comme étant des victimes. On parle de racisme environnemental, par exemple, aussi sur les essais nucléaires qu'il y a eu dans le Pacifique, donc notamment en Polynésie, avec la France, ou en Algérie aussi, qui a eu, avant la Polynésie, la France faisait des essais nucléaires en Algérie. Et donc, on a exposé un certain nombre de populations à des produits qu'on n'aurait jamais fait ici en métropole.
Comment faites-vous pour vérifier vos sources ?
Il y a plusieurs moyens de vérifier ces sources. La première chose, c'est que tu commences par croiser tes sources. Tu ne te contentes pas d'une seule source, normalement. Tu demandes aussi des preuves matérielles, en général. Tu ne te fies pas uniquement à des témoignages. Tu ne te fies pas uniquement à la parole en fait, des personnes que tu rencontres. Donc, quand on parle de preuves, ça peut être toutes sortes de preuves. Hein. Ça peut être des enregistrements, ça peut être des mails, des preuves écrites, ça peut être des documents, voilà, ça peut être tout un tas de choses, des PV de réunion, enfin voilà. Voilà. Et puis ensuite, tu rencontres un certain nombre de personnes, tu croises tes sources, tu fais du contradictoire, donc tu vas aussi voir les personnes qui sont mises en cause, etc.
Ah oui, je me pose la question, comment on peut être sûr que les scientifiques ne disent pas ce qu'ils veulent qu'on entende et pas ce qui est vrai ?
Ensuite, les scientifiques aussi, il faut vérifier, mais c'est pour ça d'ailleurs qu'eux-mêmes ont des systèmes de sélection par les pairs, par exemple, avant de publier une étude. En fait, il y a des systèmes de vérification entre eux. C'est assez élaboré la manière dont la recherche scientifique est validée avant publication. Ensuite, ça n'empêche pas qu'il y a eu des cas quand même plutôt exceptionnels de fraude scientifique, etc. Donc, il faut être prudent, évidemment, ça reste une source comme une autre. Mais globalement, il y a quand même des principes scientifiques qui font que les recherches, quand elles sont publiées, en général, sont quand même assez solides. Il y a un truc, c'est que le journaliste... il y a un drame dans la profession qui est qu'il y a beaucoup de journalistes qui n'ont pas de culture scientifique, en fait. Et c'est vrai qu'il faut une certaine culture scientifique pour comprendre un certain nombre de données, être capable de lire correctement et comprendre un article scientifique, par exemple, c'est pas donné à tout le monde. Donc en fait, il faut se former, tout simplement, il faut apprendre, il faut se former. Moi, par exemple, je me suis formé, c'était pas évident au début, j'y captais vraiment rien. Je me suis formé concrètement au sujet de biodiversité, de l'écologie de façon générale. C'est une science, en fait, l'écologie. D'abord, c'est une science du vivant et il faut comprendre les logiques qui sont sous-jacentes à cette science.
On a vu sur votre page Instagram que vous chroniquez la fin du monde. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ?
En fait, ça vient un peu d'une blague. Avant, j'étais en CDI dans une rédaction où, comme j'étais le responsable de l'écologie dans cette rédaction, les autres journalistes disaient toujours que j'étais l'annonciateur de la fin du monde, puisqu'en effet, quand on parle d'écologie, on parle aussi beaucoup de mauvaises nouvelles. Voilà, et c'est un peu resté. Mais c'est vrai qu'ensuite, il y a un côté un peu anxiogène quand on est journaliste et qu'on parle tout le temps d'écologie, parce qu'on parle quand même beaucoup de choses qui sont très dures, enfin, de choses qui sont de catastrophes, quoi, concrètement, qui sont en cours. Et on a un peu cette sensation de fin du monde, d'effondrement, voilà, qui est souvent très présente.
Est-ce qu'on a fait le tour de vos questions ?
Oui.
C'est beau ? Bon, je vous laisse conclure alors.
Merci beaucoup.
Okay, tu veux conclure ? Vas-y. Alors, viens alors.
Merci.
Merci beaucoup de nous avoir accordé votre temps pour cette interview.
Merci beaucoup de nous avoir accordé 34 minutes et 58 secondes pour cette interview.